à CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
On va l'accueillir. Évidemment qu'il est dans la région aujourd'hui pour présenter son nouveau spectacle. Jérémy, je vais te laisser t'asseoir. Salut, oui, on est en onde. Je suis en onde là.
Oh,
allez,
comment ça va, vous autres?
Ça va bien, toi? Merci d'être là, Jérémy. Toi qui es là pour ton spectacle. Et là, on approche de la première, là, donc c'est un rodage avancé. Là.
C'est un rodage avancé. Oui, effectivement, c'est un rodage avancé qu'on joue ce soir à Sorel.
Ben oui.
D'ailleurs, on joue ce soir. Est-ce que vous venez?
Oui.
Ah, vous êtes là?
Oui.
Et vous autres, les Spice Girls, vous n'êtes pas là? Non? Ça, madame, c'est un groupe de musique des années 80, les Spice Girls. Elle me regarde, elle sait pas. Donc je suis là, je suis avancé. Il en reste trois et après on fait la première.
Donc là c'est presque un spectacle de la première.
En fait c'est la première. Ce soir on va travailler les lumières à la salle de Sorel, okay. Tout l'après-midi. Et ce soir ça va quasiment être le spectacle de la première.
Ouais. Et c'est pratiquement complet. Tu dis là les gens peuvent s'acheter des billets, mais c'est pratiquement complet. Okay. Il reste, je pense, là, je suis allé voir sur le site ce matin, il doit rester une quinzaine de billets.
Ah, OK, je savais pas. J'savais
donc,
pas.
On est presque à...
Donc, il reste 15 billets, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 15 là. Ça va faire la job, Luc.
Naturel, c'est ton nouveau spectacle où tu as décidé d'enlever un masque social.
Ouais, parce que tu sais, je pense qu'on vit dans un monde où on veut toujours montrer une belle image, on veut montrer à quel point on est des bonnes personnes, parce que je pense qu'on a été élevés à être des bons enfants. Donc, on devient des adultes à vouloir montrer qu'on est des bonnes personnes, mais je pense qu'on n'est pas des bonnes personnes, on est des humains. Avec du beau, du moins beau. Et moi, j'ai connecté avec ça, à vouloir montrer aux gens que je ne suis pas juste une bonne personne, mais je suis aussi un humain avec des défauts, avec des peurs, avec des doutes, avec des... Tu vois. Et donc, c'est un peu ça que je veux montrer dans ce show-là.
Mais est-ce que c'est difficile d'en parler? Parce que là, c'est enlever complètement le masque puis être plus vulnérable que jamais, peut-être?
Je pense qu'au début, oui. Parce que tu te dis, si je montre plus de moi, j'ai peur que les gens arrêtent de m'aimer. Et je pense que ça, c'est une réflexion qu'on peut tous avoir.
Ouais.
Si je monte une autre côté que la bonne personne, est-ce que les gens vont continuer à m'aimer? Est-ce que les gens vont continuer à me suivre? Est-ce que les gens vont, tu vois? Et puis, je pense qu'il y en a la réponse, et je pense qu'il y en a qui vont arrêter, mais d'autres qui vont prendre le train en route. Donc, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie d'être de plus en plus, tu sais, l'humain entier que je suis, et de pouvoir être libre d'être ça partout. Et de pas... Parce qu'on atteint un peu la perfection des politiciens, des sportifs, des artistes. On se dit, on veut que ce soit parfait, mais c'est des humains, tu vois, avant tout. On est des humains et on a le droit d'être faillible. On a le droit de douter, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Et je pense que c'est important de se le dire en tant qu'humain, ça.
Est-ce que ça a fait du bien de l'écrire, ce show-là?
Ça
Parce que là, c'est laisser tomber les masques puis aller complètement... Montrons-le, ce côté-là, moins agréable.
Bah, tu vois, Luc, je pense qu'il y a un côté thérapeutique dans la vie, de le faire dans la vie. Et donc, de le faire aussi devant le public. Et finalement, je me rends compte que les gens sont contents parce qu'ils se disent « Ah, bah, si lui le fait, bah, on va pouvoir le faire aussi. » Et ça fait du bien d'enlever ce masque-là. Tu sais, on vit tout ça avec un peu un avatar, hein, une espèce de... Des fois, on fait seulement de rire quand c'est pas drôle. On dit oui quand on a envie de dire non. On accepte des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Et ça, on le fait un peu tous, tu vois. Mais c'est fatigant au bout d'un moment de suivre ce personnage-là qu'on s'est créé. Et donc, j'ai envie, avec le public, d'enlever ça, de pouvoir être plus... Bah finalement, voilà, plus totalement moi.
Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est la paternité? Est-ce que c'est l'âge qui avance? C'est quoi?
Non, j'ai rencontré un ami il y a quelques années qui s'appelle Franck, qui est un thérapeute en France et qui m'a montré ça. C'était à l'époque où je pensais que j'étais juste une bonne personne. J'étais juste le gars gentil, sympathique, souriant. Et ce que je suis, mais je ne suis pas juste ça. Et donc, il m'a appris ça. Il m'a appris, non, des fois, tu es intense, des fois, tu es égocentrique. Des fois, tu penses qu'à toi. Des fois, tu es contrôlant. Des fois, tu es humain, quoi. Mais à voir qu'il y a un autre côté que juste la bonne personne, je fais « Ah, ok, oui, c'est ta raison. » Et d'accepter ça, d'admettre ça, d'aller voir ça, ça m'a fait rencontrer plus de paix dans mon cœur. Tu vois, d'accepter que je suis pas parfait, quoi, en fait, finalement. D'accepter que je peux, que les gens, finalement, vont voir autre chose de moi puis qu'ils vont continuer à m'aimer ou pas. Mais au moins, je vais être totalement tout ce que je suis, en fait. Tu vois, ça revient à ça.
Comment ça se passe, le rodage, jusqu'à présent? Maintenant,
super
qu'il tire à sa fin, évidemment, c'est toute une étape, le rodage. Là. C'est de voir ce qui marche, ce qui marche moins, ben là, puis de peaufiner.
Ouais, là, on est très avancé. Donc, maintenant, on sait que tout ce qui sort est relativement drôle. Mais le plus drôle dans le show-là, je pense que c'est drôle, les jokes. Mais je passe tellement de temps à vouloir parler aux gens. J'aime tellement ça, d'aller improviser avec le monde, d'aller les connaître, savoir ce qu'ils font dans la vie, d'où ils viennent, c'est qui. Et les gens sont tellement généreux et ils participent. Il fait que ça crée un show différent à chaque soir.
Ah oui.
Et je peux passer des fois 15-20 minutes par spectacle à pas écrit, à aller juste parler avec les gens Et les gens savent qu'ils sont en train de vivre un moment unique. Ils savent que ce qu'on vit ce soir-là, on ne l'a pas vécu la veille et on ne le verra pas le lendemain. C'est maintenant qu'il y aura Ginette qui vient de Sorel, qui vit telle chose, qui me dit telle chose. Ça n'arrivera pas ailleurs, tu vois. Donc, il y a un truc unique pour les gens. Et pour moi, ça me permet de rester vivant. Au lieu de répéter le même texte à chaque soir. À chaque soir, j'ai des gens différents. À chaque soir, il y a une histoire différente. Et donc, à chaque soir, il y a un spectacle différent qui s'écrit avec le public. Et ça, moi, ça m'excite.
Est-ce que ça vient des conférences, à côté-là?
Non.
Ou tu faisais déjà ça?
Non, je faisais déjà ça. Ça vient du fait que je trouve ça excitant et pour le public et pour l'artiste. De ne pas avoir à répéter la même chose tout le temps et un peu de se lancer dans le vide. Parce que quand tu pars à des gens dans la salle et qu'ils te répondent, il faut rapidement trouver une joke.
Tu sais pas ce qu'ils vont dire. Ouais, c'est ça.
Ça peut être très drôle ou très plate, tu comprends. Et donc, l'idée de rester en éveil,
ouais.
Et ben moi, ça me stimule. Et clairement, tu vois la réponse des gens parce que les rires qui sortent de là, si c'est bien fait, c'est exponentiel, tu vois. Ça crée vraiment... En fait, j'ai envie que les gens ne viennent pas voir un spectacle. J'ai envie qu'ils vivent un moment avec moi. J'ai envie que les gens vivent un moment, qu'ils savent qu'ils ne vivront pas le lendemain ou là, tu vois. Vraiment un moment unique. Et ça, je pense que c'est important pour moi d'offrir ça aux spectateurs.
Est-ce que tu tentes de cibler le type de spectateur que tu veux? Parce qu'il y a toujours dans les shows des gens qui essaient d'être plus drôles que le gars qui est sur la scène.
Ouais.
Est-ce que tu essaies de ne pas prendre ceux-là puis d'aller ailleurs?
Non. Moi, dès qu'il y a un petit bruit dans la salle,
tu vois là?
Quelque chose, je vais là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et là, j'y vais. Et moi, je me nourris de ça. Donne-en moi. Alors, des fois, il faut calmer les gens parce qu'ils pensent que c'est une kermesse. Et,
Oui. Il est parti, là.
Ils disent, ça y est, dans une émission de télé, il y a un voyage à gagner. Ils disent, mais c'est toujours... Tu sais, au Québec, on est choyé. Je suis allé faire des shows en France, là, l'année passée, pendant 6 mois. Et ça m'a rappelé à quel point on est choyé. Et je le dis dans le spectacle, mais que la plus belle richesse de ce pays, ici, c'est son peuple. La plus belle richesse du Québec, c'est son peuple. Parce qu'il y a une qualité humaine ici qu'il n'y a pas ailleurs. Et souvent, on pense que l'herbe est plus verte chez les voisins. Mais moi, je suis allé voir chez les voisins. Et ici, l'herbe, elle est verte en estime, à dire. Puis en plus, elle se fume. Hey. C'est une des jokes que j'ai dans le spectacle. Mais je suis sincère. Je suis sincère parce qu'en tant que Québécois, je pense qu'on ne sait pas comment les autres gens sont. Et on pense souvent que c'est mieux ailleurs. On dit souvent ici, il fait froid. Puis le gouvernement est ainsi. Et ci et ça, il y a beaucoup de défauts. Mais partout, il y a des défauts. Et tu vois, moi, j'ai vécu dans plusieurs pays dans ma vie. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, j'ai vécu à Cuba, j'ai vécu en France. Et l'herbe ici, vraiment, elle est vraiment verte, tu vois. Il faut s'en rendre compte qu'on est très choyé. On a de la place, les gens sont adorables, il y a une qualité de vie. À part l'hiver, on a une qualité de vie qui est des fois un petit peu long. Un tantinet, 3 à 6 mois trop long, hein, ma tante.
Mais en même temps, dans les pays chauds, il y a des ouragans.
Mais dans les pays chauds, il y a des ouragans. Fait que c'est jamais parfait nulle part. Mais se rendre compte que... Et puis, je ne sais pas si les gens se rendent compte ici, parce qu'on vit ici. Quand tu vis ici, tu t'oublies la chance que tu as d'avoir ce que tu as. Parce que tu le vis, tu le vois tous les jours. Mais quand tu es allé voir ailleurs et que tu reviens, tu sais à quel point on est privilégié au Québec de vivre cette vie-là.
Jérémy, tu es allé en France, tu l'as dit tout à l'heure. Tu voulais aller tester le marché, retourner à tes racines.
Ouais.
Ça ne s'est pas passé comme tu voulais, la vie là-bas. Ouais. Sur scène, oui, la vie, non.
La vie, non, j'avais jamais vécu à Paris.
En fait, tu vivais à Dijon, toi?
Oui, je vivais à Dijon. J'ai vécu à Paris quand j'étais très bébé. J'avais de 0 à 2 ans.
Okay.
Et Paris, c'est pas agréable à vivre quand t'as des enfants. Et je sais pas si c'est très agréable à vivre sans enfants non plus, mais il y a tellement de bruit, il y a tellement de pollution, d'agitation. Merci beaucoup, madame, pour le Paris, c'est gentil. Et donc, c'est pas hyper agréable à vivre. Tu sais, tu vis dans des petits appartements. T'as des voisins au-dessus qui font du bruit jusqu'à 4h du matin. T'as ceux en dessous qui se plaignent que ta fille se réveille tôt parce que tu leur marches sur la tête. Et donc, t'as ça, t'entends les ambulances, la police, les gens sont stressés dans la rue. Tu vois, il y a ce truc-là qui est pas agréable à vivre. Et puis, les gens là-bas, naturellement, deviennent stressés. T'as beau arriver là-bas avec toutes les belles intentions du monde. Après quelques semaines, tu deviens comme eux. Parce que l'atmosphère te prend, fait que ça dépeint sur toi, tu vois. Fait que tu deviens un peu. Tu deviens chiant, finalement.
Tu l'as senti, ça, toi? Que tu devenais stressé plus ça avançait?
Ouais, je voulais garder mon cœur ouvert. Mais quand tu te fais insulter 6 fois par jour, qu'il n'y a pas beaucoup de place, que les ascenseurs sont minuscules, que l'administration est insupportable, au bout d'un moment, ça t'atteint. Tu vois, t'as beau arriver là-bas comme un moine, après quelques semaines, au bout d'un moment, tu commences à t'énerver, tu vois. T'as pas envie, mais t'as envie de te battre avec quelqu'un. T'as envie, tu vois, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de monde dans un petit endroit. La chance qu'on a ici, c'est que c'est grand, puis on n'est pas beaucoup. Là-bas, ils sont beaucoup.
Oui.
C'est beaucoup plus petit. Ce qui fait que quand tu es serré, au bout d'un moment, bah, y a des tensions qui se créent, tu vois. Si dans cette salle de restaurant, on était 300, je te garantis que dans 5 minutes, on n'a plus envie de manger ici.
Non.
Là, on a de la place, tu vois. Mais je pense que voilà, qu'il y a trop de monde au même endroit.
C'était l'occasion de travailler avec ton frère.
Mon frère,
aussi.
Ouais, effectivement.
C'était des belles retrouvailles, j'imagine, d'avoir l'occasion de travailler avec lui. Puis il t'a laissé aller quand tu as décidé que c'était terminé.
Il m'a laissé aller parce qu'il ne voulait pas me forcer. Il ne voulait pas que je sois malheureux, tu vois. Il ne voulait pas que j'arrive. Puis tu sais, c'est pas juste aller là-bas, c'est gérer deux carrières, c'est compliqué aussi. Deux publics, deux carrières, deux territoires, deux maisons, deux écoles pour les enfants. Au bout d'un moment, ça devient. On ne s'en est pas rendu compte avant de le faire, mais ça devient quelque chose. Hein. C'est de la job. Et puis l'idée que mes enfants restent ici un jour, puis que moi je continue à aller là-bas, ça me rendait trop, trop triste. Pour de l'argent et du succès, ça valait pas le coup. Je préférais être heureux ici que faire l'aller-retour là-bas.
Donc, tu y retourneras plus ou tu vas y retourner pour des allers-retours quelquefois?
Ah, bah si, à un moment donné, d'une façon périodique, je vais faire un truc spécial là-bas, j'irai. Mais y aller vivre là-bas et développer une carrière là-bas, ça m'a donné pas envie. J'ai arrêté d'avoir l'envie de ça.
L'écriture de ce spectacle-là a commencé quand? Est-ce que ça s'est amorcé pendant la pandémie?
En fait, moi, ce que j'aime faire avec mon ami Gilles qui est ici, c'est que on travaille en tournée. On est sur la route et là, je lance une idée et lui, il me revient et me dit « Ah bah attends, je pensais à ça ». Puis là, il y a une espèce de ping-pong qui se fait. Et donc, on crée sur la route. Et souvent, à la fin des spectacles, je vais essayer 3-4 minutes de blague. « Ah, ça rit. Ok, on a un sujet. » Fait que là, on le garde de côté. Puis au fur et à mesure, on grossit ça. Donc, on crée beaucoup du prochain spectacle pendant un spectacle précédent.
Ce qui fait donc qu'il n'y a pas une si grande pause entre deux spectacles, idéalement?
Il n'y en a pas eu entre le
premier
et le deuxième.
Il y a eu une pandémie, là, c'est sûr que ça n'a pas aidé.
C'est ça.
Ouais.
Mais sinon, une fois qu'on a repris, on a repris. Mais non, en général, je laisse un an ou deux entre chaque spectacle. Le temps de vivre aussi. J'ai besoin de vivre pour faire rire les gens avant.
Est-ce que la famille, c'est inspirant?
La famille, c'est inspirant, ouais. La famille, c'est inspirant. J'ai deux petites filles. Écoute ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Il faut que je te conte ça. Ma petite fille a 3 ans et 2 mois. Elle s'appelle Loa. Et moi, j'aime bien lui faire des bisous. Moi, je pourrais l'embrasser toute la journée, ma fille. Mais elle, à 3 ans, elle ne veut plus toute la journée. Des fois, oui, des fois, non. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez. Et donc, moi, je joue à un jeu. Je fais, je rentre dans la maison. Et quand elle ne me voit pas, je fais, je cherche une petite fille de 3 ans qui aimerait m'embrasser. Est-ce qu'il y a une petite fille de 3 ans qui aimerait m'embrasser? Je fais comme si je ne la voyais pas. Elle fait, moi. Et là, ça marche. Sauf que là, moi, je veux toujours pousser plus loin la game. Fait qu'à un moment donné, je me lève, il y a ma blonde qui fait la cuisine, je sais pas quoi, puis il y a ma petite fille qui est là, et puis je fais, je cherche une petite fille de 3 ans, puis là, je vais pousser la game plus loin. Fait que je me dis, je vais aller ouvrir la porte de l'entrée, et je vais crier dehors, comme si je cherchais une fille de 3 ans pour pousser la game. Fait que j'ouvre la porte, je fais, cherche une petite fille de 3 ans qui va m'embrasser. Mais ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y a mon voisin en face. Il fait son terrain. Il me regarde et lui il entend cherche une petite fille de 3 ans qui aimerait que je l'embrasse. J'ai refermé. Fait que ça fait des bons, tu vois, des fois elle fait des blagues, elle s'en rend pas compte. Je dis mon amour, tu veux-tu ça ou ça? L'un ou l'autre? Elle me répond l'autre. Il y a des choses comme ça. Ou alors on est dans la voiture, je l'amène à la garderie le matin, puis je mets la musique. Elle fait papa, baisse la musique, j'ai mal à la gorge. Elle est drôle, mais sans savoir, tu vois. Fait que c'est une mine d'or, ces enfants-là. Mais c'est drôle dans ma vie. Et
d'ailleurs, on les voit maintenant dans des vidéos.
On les voit dans des vidéos, ouais. Je me dis, tu sais quoi, avec ma femme, on s'est posé la question, est-ce qu'on le fait ou pas? Et finalement, ben, on a décidé qu'on voulait le faire parce que c'est notre vie. Puis... Avant, je cachais tout. Je cachais ma relation avec ma femme. Je cachais, pas par, pour pas que les gens le sachent, parce que je voulais garder un espèce de...
Oh ouais.
Mais maintenant, je me dis, tu sais quoi, si tout le monde est cool avec ça, ben, on le fait, puis voilà.
Et est-ce qu'elles aiment ça? Est-ce que ta plus vieille aime ça? L'autre est jeune un peu, mais
ben en fait,
elle aime
voir la vidéo où elle est dessus, ça la fait rire. Et puis, j'ai fait signer un papier, comme quoi elle me léguait...
ses droits,
tous
les
ses droits
à l'image.
Tout son image, jusqu'à 18 ans. Elle a signé, moyennement 3-4 bonbons par jour, elle a signé. Et on trouve ça cool parce que c'est nous, quoi.
Il reste quelques billets pour le spectacle ce soir. On vient de regarder le plan de la salle.
Il en reste 20.
Il en reste 20.
Il reste 20
près. Ouais.
Il reste 20 preneurs à Sorel.
Donc, azimutdiffusion.com, si vous voulez vous acheter
les billets. Regarde ce que je vais dire, Luc. Je vais faire un deal. Si les 20 personnes, les premiers qui les prennent, s'ils n'aiment pas le show, je les rembourse.
OK.
Les 20 derniers, là?
Oui.
Parce que les autres, craignent, ils ont pris leurs billets. Fait que débrouillez-vous avec vous. Mais les 20 derniers qui prennent les billets à partir de maintenant, s'ils n'aiment pas le show, ils viennent me voir, virement Interac.
OK. C'est un bon deal. C'est noté. J'espère que les gens sont à l'écoute.
C'est un bon deal.
20h ce soir. Tu sais, on a dit qu'on laissait tomber les masques, les sujets, sans dévoiler de punch, mais les sujets dans le spectacle, ça ressemble
Écoute,
à quoi?
Je parle justement du fait que je commence par ça en disant que je ne suis pas juste une bonne personne. Donc, je montre des côtés, entre guillemets, des défauts que je peux avoir. Ensuite, je parle de l'incompétence. Okay. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de mal avec la compétence. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Luc,
ouais.
Mais moi, les gens qui font un métier, mais tu vois que dans leurs yeux, qu'ils n'ont pas envie d'être compétents et qu'ils sont un peu mous, il y a quelque chose qui vient me chercher. Puis autant que tu sois serveur dans un restaurant ou médecin, hein, parce qu'il y a aussi des médecins
qui viennent partout,
ça vient me chercher. Et je tombe souvent sur les incompétents. Fait que je parle de ça. Je parle du fait que souvent, les perceptions sont trompeuses entre ce qu'on voit des gens et ce qu'ils sont. Il y a une différence. Je parle de la virilité.
Ok.
Je sais plus c'est quoi la virilité en 2023. Je suis un peu perdu par rapport à ça. Je me pose la question, est-ce qu'il y a de la virilité en moi? C'est une question que je me pose encore à ce jour, Luc. Je parle de mariage, d'engagement.
Ok. Okay.
C'est, l'engagement, c'est un sujet qui me faisait très très peur quand j'étais jeune. M'engager, je pense que c'est le cas pour, je sais pas si c'est pour beaucoup d'hommes. Je sais pas si c'est aussi féminin, mais il y a beaucoup beaucoup d'hommes, je pense, qui ont peur de s'engager, autant avec une femme qu'avec des enfants, hein, parce que avoir des enfants, c'est un engagement.
C'est un engagement aussi, bah oui.
Écoute, je rends un hommage au sexe féminin.
Ok. Un mais bel hommage.
Attends, madame. Quand je te dis au sexe féminin, c'est littéralement. Parce que je pense que c'est le sexe fort. Je pense que c'est le sexe fort, c'est le vagin. On va en parler, on va dire les vrais mots.
Ben oui.
C'est un mot qu'on apprend à l'école. La vulve. La vulve. Mais je pense vraiment, parce que vraiment, ça donne la vie. Ça donne la vie et je pense que c'est la plus belle partie du corps humain. Donc, je rends hommage à cette partie du corps humain. Avec des blagues, hein, mais j'en parle à la fin de mon spectacle. Et puis je crois que j'ai fait le tour des sujets. Je pense que oui, je parle de mon chat aussi. Je parle de mon chat.
Ok.
J'ai un chat et j'aime mon chat parce que je trouve que lui, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on pense de lui, il s'en calique, le petit monsieur.
Pas mal le naturel d'un chat,
ouais.
Généralement.
Je trouve que c'est un maître pour moi, tu comprends? Lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, lui, il est bien, lui, il fait ce qu'il
veut. Il n'a pas de masque social, le chat.
Non! Lui, il est ce qu'il est, sèche le cul, tranquillement. Il y a de la visite, patte arrière levée, blablabla. Lui, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. Faut-tu que je sois une bonne. Il y a juste, je suis moi. Puis j'ai le goût de me lécher le cul, je me lèche le cul. Et il y a quelque chose là-dedans que j'aime bien. Tu vois, il y a quelque chose de libérateur d'en voir un chat vivre. Donc c'est un peu tout ça, les sujets de mon spectacle, Luc.
C'est les 10 ans de ton premier show cette année, 2013.
T'es bon, Luc? T'es bon?
Ça te fait quoi de voir tout ce qui s'est passé en 10 ans? Une famille déjà, mais 3 livres, 3 spectacles.
Ouais.
Il y a un parcours probablement surprenant aussi dans tout ça.
C'est vrai, j'ai pas vu le temps passer, je pense. Tu sais, quand on dit que ça passe vite, ben, je pense que c'est vrai. Ça passe très vite, la vie. Ça passe très vite. Et tu sais, pendant longtemps, j'ai pas vécu. Tu sais, il y a une phrase d'Oscar Wilde qui dit « Peu de gens vivent, la plupart ne font qu'exister. » Et je pense que j'ai existé pendant longtemps et je me sens vivant aujourd'hui et je compte en profiter. J'espère qu'il me reste encore beaucoup d'années à vivre. Mais pour répondre à ta question, c'est passé très vite. C'est passé vraiment. On s'est rencontrés, Gilles et moi, qui est ici en 2010. Ça va très vite. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'est à la fois beau de voir que la vie passe vite parce que ça veut dire qu'elle est pleine. Et en même temps, c'est stressant de voir que ça passe vite et qu'il y a une fin finalement. Tu vois,
ouais.
Ça mène un peu à ça.
Mais ça, en même temps, tu le savais déjà, parce que dans ta vie personnelle, t'as passé par là,
ouais.
Avec ton papa. Donc, tu savais qu'il y avait une fragilité,
ouais.
Puis qu'il y avait une urgence, hein, quelque part.
Quelque part, ouais. Et en fait, d'ailleurs, ça a été un beau cadeau, ça, cette mort-là, la mort de mon papa, parce que ça m'a permis de prendre soin de moi et aujourd'hui pouvoir profiter de la vie, aujourd'hui être le papa que je veux être. C'est grâce à ça. D'être le mari que je veux être, c'est grâce à ça aussi. Tu vois, d'avoir eu le courage de suivre mon cœur et de faire ce que je veux dans la vie. Ça, c'est une chance que j'ai. Beaucoup de gens n'aiment pas leur travail. Beaucoup de gens se lèvent le matin et attendent le week-end.
Ouais, ben oui.
Tu le sais,
ben
Luc. Oui. Et moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Je me sens privilégié. Et ça, c'est grâce à la mort de mon père que j'ai tout ça aujourd'hui. Finalement, quelque part, merci papa.
Ouais, j'allais dire ça, c'est dur avant de le comprendre,
ouais.
Ce bout-là.
Il y a moi,
tout
le
chemin
compris.
À faire,
ouais.
Avant de dire, ça m'aurait appris quelque chose.
Ouais. Et aujourd'hui, je l'ai accepté et je le remercie. Ça a été la plus grande souffrance de toute ma vie. Aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire. Sans vouloir me le faire consciemment, mais aujourd'hui, je peux dire merci à mon père pour tout ce que j'ai. Ouais.
On t'a vu à Big Brother Célébrité cette année.
Ouais.
Un court laps de temps.
Très court laps de temps.
Tu espérais aller chercher du sommeil à Big Brother Célébrité.
Si, oui.
Tu as été là quelques jours et le peu de jours que tu étais là, tu étais gardien de nuit.
Ouais, c'est quelque chose, expérience. Hein. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est ce qu'on voit à la télé et ce qu'on vit, nous, c'est deux mondes complètement différents.
Oui, ben, il y a un montage, là, évidemment.
Il y a un montage et ça, souvent, les gens ne le savent pas. Ils réalisent pas ça. Tu sais, tu vois une télé-réalité, tu te dis pas. Et tu sais, nous, on vit 24 heures, on est réveillé à peu près 18 heures sur 24, littéralement.
Ouais.
Et les gens voient 20 minutes
ben oui.
sur 18 heures. Fait qu'il y a 17h30 que les gens voient pas, il se passe plein de choses. Tu sais, ils montrent juste ce qu'ils veulent montrer à la télé, c'est normal, ils font une émission de télé.
Puis ils font des personnages.
Et ils font des personnages.
Il y a un casting avec ça. Oh, oui.
Et fait que souvent, ce que tu vois à la télé, c'est pas nécessairement ce qui s'est passé. Ou c'est pas de la façon dont c'est passé. Ou mais bref, c'est une émission de télé, hein. C'est comme un film. Mais oui, effectivement, je suis allé là-bas et je me suis dit. Tant qu'à être là, m'a joué. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui jouent pas au début. Il y a des gens qui jouent pendant plusieurs semaines au passage. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre, de prendre la stratégie, j'attends, puis prendre mon chèque. Et je me dis, je vais être là, mais même si je suis là peu, je vais jouer fort. Parce que je veux jouer pleinement à ce jeu-là. Et surtout, je me suis dit, quelque part, il y a une côté de moi qui a eu raison de faire ça. Parce qu'un gars qui est Ben Gagnon, qui a joué l'opposé de moi. Calme, posé, pas trop engagé, bah, il s'est fait éliminer la deuxième semaine.
Oh oui.
Fait que j'aurais pu sortir semaine 2 sans avoir joué une seconde. Je suis sorti en premier, mais j'ai joué un Chris, mon Luc. Comprends-tu? Et donc, quelque part, ouais, je suis content d'avoir vécu ça. C'est vraiment une belle expérience à vivre.
T'as motivé Jamie Chakwan Dubé à être patronne
ouais.
la première semaine.
Ouais.
Elle s'est rendue presque à la fin.
Ouais.
Es-tu fier de voir tout le parcours qu'elle a fait alors qu'elle était toute timide au départ?
Oui, je suis content.
Elle ne déplaçait pas beaucoup d'air à son arrivée dans la maison.
Parce qu'au début, je l'ai influencée à devenir patronne. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme de la manipulation, parce que le montage est fait ainsi. Mais j'en ai reparlé plusieurs fois avec Jamie et ce n'était pas ça, c'était vraiment sincère. Elle est arrivée dans la maison très timide, très, un peu reculée, un peu à part. Mm-hmm. Et je lui dis, en tant patronne, tout le monde va t'écouter. Elle dit souvent, les gens ne m'écoutent pas quand je parle. Là, tout le monde va t'écouter. Fait que humainement, ça va te faire un bien fou. Et elle m'a dit merci, parce que ça m'a vraiment fait un bien fou. Donc, je suis content d'avoir fait ça avec elle, tu vois. Même si ça a été perçu d'une autre façon, ben moi, je sais ce qui s'est passé, puis j'en suis content. Et pour moi et pour elle.
Es-tu content d'avoir fait cette émission-là, même ouais. si ça a été très court?
Je suis content, tu sais, ça... Moi, j'avais une grosse peur. Justement, c'est le sujet de mon show. J'avais une peur que si les gens voient un autre côté de moi, ils arrêtent de m'aimer. Et dans cette émission-là, tu vois une partie de moi intense. Tu vois une partie de moi qui peut être manipulateur, ce qui est le jeu, hein.
Ben oui.
C'est Big Brother, c'est manipuler les autres. Mais je me suis dit, si les gens voient ça de moi, peut-être qu'ils d'un coup, ils vont... Et puis c'est ça qui s'est passé. Ça a polarisé certaines personnes.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Ah, Jérémy, il est intense. Et la réponse, c'est oui. Dans la vie, je suis intense. Alors, je suis intense dans mon travail. Je suis intense pour créer un spectacle. Je suis intense quand j'ai un projet. Là, je suis intense. Je suis rarement intense à aller voir les gens dans la rue. Hey, veux-tu être mon ami? C'est pas ça que je fais dans la vie. Mais l'intensité fait partie de moi. C'est juste que je la place ailleurs. Sauf que là, ils ont vu un gars intense qui... Fait que ça a été quelque part, j'ai dû passer ça parce que je me suis dit, si en voyant les émissions, je me suis dit, quand les émissions, ils ont vu quelqu'un d'intense, peut-être qu'ils vont arrêter de m'apprécier. Et donc ça m'a fait du bien à moi, humainement, d'aller vivre un truc comme ça. Ça m'a fait du bien de me montrer sous un jour que je ne me serais pas montré
ouais.
D'habitude. Tu vois
ouais.
Donc humainement, ça m'a fait du bien.
Ben, le spectacle va faire ça aussi parce que tu montres des facettes de toi. Que ouais. tu montrais pas avant.
Ouais, donc... sauf que là, c'était filmé tout le
ouais.
temps. Là.
Ouais, ouais.
Fait que tu te mets le doigt dans le nez.
Tu peux pas penser tout le temps
non.
à ce que tu vas faire comme move, puis si ça va se retrouver à la télé,
non.
à un moment donné, faut devenir fou. Là.
À la base, je suis niaiseux, épais et enfantin, moi, à la base. Fait que je me suis retrouvé dans ce jeu-là. Après 5 minutes, j'étais niaiseux, épais et enfantin. Tu comprends? Fait que naturellement, t'es obligé de voir ça de moi, puis c'est correct comme ça. C'est correct ce que j'ai vécu avec cette émission-là. C'est correct. Les gens ont perçu ce qu'ils avaient à percevoir. Et moi, ça m'a fait du bien de. Ça m'a fait du bien de vivre ça.
Il y a eu 3 livres dans ta carrière.
Il y a 3 livres, Luc.
Est-ce que c'est un bel accident de parcours, ça? Est-ce que tu le vois comme ça? Est-ce que c'est arrivé par hasard, les premiers livres? Évidemment, pas le deuxième puis le troisième. Est-ce que le premier, c'est un heureux hasard?
Ouais, je suis sur la plage à Cuba avec mon manager et ça monte. Et je me dis, je vais écrire un livre. Et il me dit, ben oui. Et là, une semaine plus tard, je suis dans mon bureau, assis à mon bureau et je me mets à écrire un livre. Et ma blonde rentre. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai écrit un livre. Elle se retourne, me regarde. Elle bloque pendant 2-3 secondes. Elle fait « Ah bah oui ». Elle était habituée à me voir partir sur des chires. Et finalement, j'ai écrit ce livre-là. Ouais. Donc c'est, oui, ça a été un beau hasard. Et puis tu sais, c'est comme ça que je fonctionne, moi, à l'intuition. Quelque chose qu'on a tous.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas tous le courage de l'écouter.
Ouais.
Mais on a tous cette petite voix qui fait « Ah, tu devrais faire ça, dire ça, aller voir là ». Tu sais, on a tous ce truc-là. Ce truc-là qui dit « Ah, je savais, je sentais que j'aurais pas dû faire ça. Je le sentais, mais je l'ai fait pareil ». Tu sais. Et c'est l'intuition, je pense qu'on l'a tous. Et moi, j'ai écouté cette intuition-là. Qui m'a dit d'écrire un bouquin et je l'ai fait.
Est-ce que tu t'attendais à cette réaction-là?
Non, jamais.
Parce que ça a très bien fonctionné, les livres.
Je m'attendais à en vendre 12, dont 6 donnés à mes amis. Non, non, je ne m'attendais jamais à autant de succès. Je pense que c'est arrivé au bon moment, au bon endroit. Peut-être la façon dont je l'ai présenté, tu sais. Je l'ai écrit assez gros, très simple, des chapitres très courts. Et voilà, puis je suis très conscient que je n'ai rien inventé dans ce livre-là. Tu sais, c'est un résumé de choses que j'ai apprises. Je partage finalement des choses qui m'ont fait du bien. C'est ça, ce livre-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de lire ça, d'entendre ça et de recevoir ça. Je pense que c'est ça la réponse. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut avoir du succès et qui n'est pas en réponse à un besoin des gens. Tout ce qui a du succès a une réponse. Même les choses qu'on considère mauvaises est là pour remplir un besoin de quelqu'un. Donc je pense qu'un livre comme ça est venu répondre aux besoins de gens qui avaient besoin de se sentir supportés ou tu vois, d'avoir des réponses ou des pistes, etc.
Est-ce que c'est par les premiers messages des gens qui l'ont lu que tu as réalisé que ça ne t'appartenait plus, quelque part, que le livre allait faire sa vie de son côté, que les gens allaient en faire leur propre définition?
Je pense une fois que je l'ai fini et que je le rends public, que ce soit un livre ou un spectacle ou n'importe quoi, je pense que c'est plus à moi. Une fois que j'ai fini, je le lance dans l'air et après ça appartient aux gens qui veulent le recevoir. C'est un peu comme ça que je vois ça, moi. Tu vois, j'en reste, entre guillemets, l'auteur, celui qui l'a écrit, le messager. Mais c'est plus à moi en fait. Une fois que je l'ai créé, je le lance comme tu lances un caillou à la mer.
Mais ça a sûrement donné un contact avec un public que tu avais moins que toi que par la scène, mais c'est pas le même contact, j'imagine.
En fait, il y a des gens qui m'ont découvert.
Confidences, en tout
cas. Ouais, il y a des gens qui m'ont découvert grâce au livre.
OK.
D'autres qui ont vu les shows, qui ont acheté les livres, mais vraiment ça a amené un nouveau public. Ça a amené une nouvelle facette à moi, en tout cas la perception que les gens avaient de moi. Ça a amené plein de choses merveilleuses, ce livre-là. Et il y a beaucoup de gens qui me déconseillaient de le faire, en faisant un humoriste qui va écrire un livre là-dessus. Tu sais, en 2015, c'était pas encore très populaire de vouloir écrire là-dessus quand t'es humoriste. Et finalement, ça a fonctionné. Et donc, cool, tu vois.
Est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres?
Écoute, il y en a eu 3. Non, j'ai plus envie.
Okay.
Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je dis pas qu'il n'y en aura plus jamais.
Ouais.
Mais pour l'instant,
s'il y avait une étincelle, ça pourrait arriver.
Ça se pourrait dans un an ou 10 s'il y a une étincelle. Mais là, j'ai plus du tout envie d'écrire. Des livres. Là, je suis bien dans l'humour pour l'instant.
Est-ce que tu pourrais écrire pour d'autres médias? Est-ce que tu voudrais écrire de la télé, par exemple?
J'aimerais. Je suis en train d'écrire un film.
OK.
Ouais, je suis en train d'écrire un film. J'aimerais faire du cinéma. Et donc, au lieu d'attendre qu'on me propose un rôle, je me dis, je vais écrire un rôle pour moi. Et donc, j'écris un film. Je sais pas où ça mènera. Comme n'importe quoi d'ailleurs, hein, quand j'écrivais des livres, je ne savais pas où ça allait me mener, mais j'écris un film et on verra où ça mène.
Cette année, ça fait 18 ans que tu as déménagé ici.
T'es très fort, t'es très très fort, Luc. Ma propre mère ne sait pas ça, Luc.
18 ans plus tard, comment tu vois cet accueil-là que tu as reçu ici?
Écoute, j'ai passé plus de temps au Québec qu'en France. Au niveau de temps, je suis plus québécois que français aujourd'hui. C'est quand même fascinant.
Ah oui.
Et c'est comme si j'avais trouvé ma terre d'accueil. Tu sais, un peu comme tu l'as vu Danse avec les loups.
Oui.
Avec Kevin Costner. Ou pour, je vais rappeler aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui l'a vu, c'est un militaire américain qui devient amérindien. Et il reste dans la tribu qui l'accueille, tu vois.
Ouais.
Et il passe sa vie là et finalement il se marie avec une amérindienne et finalement il est les deux. Et c'est un peu comme ça que je me sens, mais je pense que humainement je me sens beaucoup plus québécois que français. Donc on dirait que j'ai trouvé le fit normal qui était ma terre d'accueil et j'ai la connexion avec les gens, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est devenu je suis un peu comme Mowgli. C'est bizarre de comparer le Québec à la jungle. Et vous êtes le gorille. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est un peu toutes ces histoires-là de gens qui ne sont pas faits à la base, qui ne sont pas nés dans l'environnement et qui changent d'environnement, mais ça devient naturel pour eux. Et on dirait que c'est devenu naturel pour moi de vivre ici, d'être ici, d'avoir une femme québécoise, des amis québécois. C'est ma vie, tu vois. On dirait que c'est devenu naturel. C'est comme ça que je vois. Mais j'enlève pas que je suis privilégié d'avoir tous ces gens-là qui décide de me suivre et de venir écouter mes niaiseries soir après soir.
Est-ce que tu l'as su dès le grand rire que ça allait marcher ici? Parce que t'as tes révélations.
En fait, je l'ai su à En route dans mon premier gala.
OK.
L'émission En route dans mon premier gala, qui était la première année, qui était une émission pour rappeler aux gens où il y avait plein d'humoristes et à chaque fois, il y avait plusieurs rounds et ils éliminaient les humoristes. Et le jour où j'ai gagné ça, je pense que je me suis dit, là, il y a quelque chose de vraiment cool à faire ici. J'ai vu que les gens vraiment m'acceptaient en tant qu'artiste, peut-être ce jour-là, je pense.
Est-ce qu'il y a un trac à chaque nouveau spectacle? Quand les deux d'avant ont très bien marché, tu as vendu beaucoup de billets pour les deux précédents. Est-ce qu'il y a une pression, un trac avant de présenter un nouveau show?
Est-ce qu'il y a un trac?
Parce qu'on est attendu. Au premier spectacle, on est peut-être moins attendu par un public. Là, on l'est avec
T'as raison. Mais on s'est fait la réflexion avec mon ami Gilles. On s'est dit, on les écrit assez rapidement. Et ça devient assez rapidement efficace, comme on veut que ça le soit. Donc, on dirait qu'on n'a même pas le temps de penser à ça. Parce qu'on fait, puis tu vois, là, on a fait, je sais pas, 20 ou 30 spectacles. Et rapidement, c'est efficace. Et donc, rapidement, on voit que les gens aiment. Donc, ce trac-là n'existe pas, en fait. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait place à ce trac-là. Tout simplement parce que rapidement, le contact se fait et rapidement, les gens aiment. Donc, si les gens aiment, il n'y a plus à avoir de trac, il n'y a plus à avoir d'attente parce qu'ils passent un bon moment. Donc, on dirait que j'ai jamais fait place à ça encore dans ma carrière. Peut-être ça va venir.
Ouais.
Mais à date, j'ai été assez cool avec ça, je pense.
Que les gens te choisissent parmi tout ce qui existe, c'est un privilège?
Ça, c'est un privilège, Luc. Je me le suis rappelé, j'étais à Magog, on était à Magog la semaine passée, et j'ai vraiment pris le temps de remercier les gens à la fin du spectacle, parce que les gens, pour eux, c'est peut-être rien d'acheter un billet de spectacle et d'aller voir un show, mais pour moi, c'est beaucoup.
Ben, c'est une soirée.
Voilà.
C'est une soirée qu'ils gardent à toi alors qu'ils pourraient faire plein de choses.
Ils prennent de leur temps, ils prennent de leur argent, il y en a qui prennent des babysitters, ils prennent le temps de se déplacer.
Ouais.
Et pour moi, tu sais, des fois, quand tu vis quelque chose, des fois, tu le prends pour acquis, et je pense que j'ai dû le prendre pour acquis, mais là, dernièrement, je me rappelle à quel point je suis privilégié d'avoir des gens qui viennent remplir mes salles et m'écouter faire mes niaiseries. Vraiment, je suis privilégié, Luc. Je me rappelle et je le dis aux gens à la fin de chaque spectacle.
Jérémy, on va inviter les gens à aller te voir ce soir.
Il reste 20 billets, Luc.
Il reste pas beaucoup de billets.
Je serais curieux de voir. Peut-être que là, on est rendu à 17, 16. C'est possible, Luc?
Peut-être.
Mais écoute,
peut-être qu'au cours de l'après-midi, il va en avoir plein qui vont se vendre.
Je suis content d'être à Sorel. C'est une belle ville. D'ailleurs, on le voit. Regarde, il y a des... On est là parce que les gens ne savent pas. Ils savent que les gens, il y a un public.
Oui.
C'est le fun des gens jeunes dans cette salle, des gens. Jeune de cœur, et ça fait plaisir. Mais c'est, tu sais, parce que ce que j'aime, c'est qu'il y a un certain âge, et même des gens comme des gens de Sadia dans ma salle, mais c'est des bons rieurs, des bons vivants. Et peu importe les blagues que tu fais, bah, ils vont les rire de bon cœur, tu vois. Et tu pourrais te dire peut-être que les gens de 70 vont moins rire à tes blagues niaiseuses. Ben non, Kaolik, ils rient plus fort que les autres parce que ça leur fait du bien, tu vois. Fait que moi, j'aime ça, ce public-là, moi, les publics vintage.
On va inviter les gens à aller te voir ce soir, 20h, à la salle Georges Codling du Marché des Arts des Jardins, pour ton spectacle naturel, la première qui est au mois de mai à l'Olympia. Merci d'avoir été là.
Merci, Luc, pour ton accueil.
Merci.
Merci. Et puis merci à vous, la gang. Merci beaucoup.